Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est dimanche 26 janvier 2014. Encore un peu on va dire 2013, ça passe vite. Et bienvenue à cette journée de pleine conscience. Certaines personnes sont là depuis 18 ans, 20 ans et d'autres pour la première fois. Mais je vais vous dire que chaque fois que nous faisons une journée de pleine conscience, c'est comme si nous la faisions pour la première fois. Qui ne sait pas du tout ce qu'est une journée de pleine conscience? Qui n'a aucune idée? Vous savez? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça? Merci. On appelle ça une journée de pleine conscience. Et on le fait le dimanche parce que nous ne travaillons pas et on aurait pu le faire le samedi. Mais en fait, c'est juste une journée exemple pour que nous la pratiquions aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et les activités que nous allons pratiquer aujourd'hui, ce sont des activités que nous faisons toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute la vie. Nous nous asseyons, nous marchons, nous attendons, nous mangeons, nous parlons. Dans la vie de tous les jours, nous ne le savons pas toujours. Nous le faisons et nous sommes automatiques. Nous nous asseyons, nous avons l'habitude, nous marchons et nous courons, nous mangeons et nous parlons en même temps. Et nous faisons toutes sortes de choses, deux choses à la fois, et comme si c'était une habitude, et nous nous sommes emportés par quoi? Par ce qui se passe ici, par ce qui se passe dans notre mental, parce que tout le reste, nous le prenons pour acquis. Tout ce que notre corps fait, c'est comme... On marche, on se lève et tout à l'heure on était assis, on s'est levé et puis on n'a même pas pensé « Ah tiens, je peux me lever, ah, c'est vraiment une habitude. » Alors, faire une journée de pleine conscience, c'est de venir pour prendre conscience de ces choses-là. Et après, les pratiquer à la maison également et au travail et au bureau et dans toute notre vie. Et on vient pour apprendre à méditer aussi. Et méditer, pas seulement assis sur un coussin. Chaque chose que nous faisons en pleine conscience est une méditation. Méditer, ça veut dire réfléchir, regarder profondément. Mais avant de regarder profondément, il faut s'arrêter. Alors, ce n'est pas seulement de s'arrêter par le corps, mais c'est de s'arrêter intérieurement. Et c'est notre esprit qui, lui, ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en train de nous dicter des choses, de nous rappeler des choses, de nous poser des questions, et de nous angoisser, ou de nous réjouir, ou toutes sortes de choses. Et il a la prédominance. Il a un pouvoir incroyable, l'esprit. Nous sommes reconnaissants que notre esprit fonctionne bien. Parce que des personnes n'ont pas cette chance. Et elles ont un esprit un peu détraqué, dans le sens que où elles oublient, ou elles ne peuvent pas parler, ou elles ne peuvent pas penser avec lucidité. Alors, toutes les fonctions du cerveau et de l'esprit sont bénéfiques et nous devons les reconnaître. Mais nous voulons aussi qu'il y ait un équilibre dans notre vie. Il faut qu'il y ait un équilibre en ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. Pour l'arrêt, il y a plusieurs façons de s'arrêter. Si vous voulez réparer votre voiture, vous allez dans un garage. Si vous êtes malade, vous allez chez le docteur. si vous voulez acheter du pain, vous allez à la boulangerie. Chaque chose a une fonction. Ici, nous avons ce qu'on appelle la maison de pleine conscience. Et nous avons vraiment eu la chance de pouvoir avoir cette maison qui, entre parenthèses, est tout à fait bénévole. C'est votre contribution qui nous aide à payer le loyer et tout ça. Alors, c'est tout à fait bénévole. Et cette maison-là est un refuge pour beaucoup de personnes qui viennent et qui ont le désir d'apprendre, d'en savoir plus sur la pleine conscience. Pleine conscience. Dès qu'on dit conscience, on dit éveil. On dit contraire de sommeil, contraire d'ignorance, contraire d'être paumé. Quand on est conscient, on n'est pas paumé. Et quand on n'est pas conscient, on est paumé. On fait des choses pas correctes, ou on néglige, ou on oublie, ou on est distrait, et on laisse aller. Tout ça, c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? Alors, on veut être conscient, mais pleinement conscient. Parce que on peut se réveiller le matin, ouvrir les yeux et être conscient. Ah, je suis conscient, c'est-à-dire je suis conscient, c'est-à-dire je ne suis pas évanouie. Je ne suis pas dans le coma, je suis consciente. Mais pleinement conscient, c'est comme si on se prend par la main et on va regarder notre conscience et on va la diriger pour qu'elle nous en apprenne plus, pour qu'elle nous dirige vers une vie intelligente, sensée, vraiment sensée. Alors, nous avons dans nos enseignements, et alors je vous écris le nom de Thich Nhat Hanh au cas où vous ne le connaîtriez pas. C'est un nom vietnamien. Thich, ça veut dire maître. Et Nhat Hanh, ça veut dire grande action. Grande action. Il est devenu moine à l'âge de 16 ans et son maître lui a donné... Non. En fait, c'est Thich Nhat Hanh qui a demandé ce nom. On l'appelle Thaï. Thaï, c'est familier, c'est maître familier. Quand son maître lui a dit... lui a prédit que il serait très actif dans la vie. Parce qu'il y a des moines qui restent dans les monastères et qui pratiquent et étudient, ils sont dans le monastère. Il y en a d'autres qui sont encore plus actifs et qui, comme, ils vont à l'extérieur. Et Thaï savait, il avait un petit esprit assez révolutionnaire, il voulait changer les choses, mais dans le bon sens. Et il pensait que quand on est bouddhiste, on doit appliquer notre bouddhisme. Et le bouddhisme, c'est pour se soulager de la souffrance. Et c'est d'être attentif à notre vie. Et il s'est dit déjà, si jeune, il ne faut pas rester dans les monastères, il faut agir. Je peux apprendre à soulager ma souffrance, mais je dois aussi apprendre à soulager la souffrance des autres. C'est ça, le bouddhisme engagé. Alors, il a pensé au nom action. Il fallait qu'il agisse. Alors, le maître lui a donné le nom de grande action. Et effectivement, Thich Nhat Hanh a été très actif, et il est encore très actif, surtout durant la guerre du Vietnam. Et il a connu Martin Luther King, il a fait partie des pourparlers de paix à Genève, à Paris, aux États-Unis. Et c'est grâce à lui que la guerre du Vietnam a cessé, par son action. Mais le monde ne le sait pas. On entend beaucoup parler du Dalai Lama, et on reconnaît son œuvre et tout, et ça va avec ce que nous faisons aussi. Mais Thich Nhat Hanh est moins connu. Et pourtant, c'est dans la même veine, ce sont les mêmes enseignements. soulager la souffrance, vivre une vie consciente, intelligente, attentive. Juste ce mot-là, attentive. Je ne vais pas parler pendant quelques secondes. Pensez à ce mot. Est-ce que je suis attentive? Attentif tout le temps? Ou alors est-ce que je me laisse aller? Ou est-ce que je néglige des choses? Ou est-ce que je me dis ouais, l'autre va le faire? Ou bien je le ferai demain? Ou dans la vie de tous les jours, la vie de la pleine conscience concerne chaque moment de la journée. Quoi que nous fassions, ça ne veut pas dire être un robot. Mais ça ne veut pas dire « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je sois... » Mais après, ça s'intègre. Je sais ce que je fais. Et souvent, on entend autour de soi, les gens disent « Ah, ou bien nos parents, ou nos amis, ou nos frères, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Alors, quand on nous dit « Tu ne sais pas ce que tu fais », ben c'est pas, on n'est pas très content d'avoir cette remarque-là. Alors nous avons un texte qui s'appelle le Sutra du Lotus, qui est un très, 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 très beau sutra. Et dans une de ces histoires, on parle du Bouddha. Alors, Bouddha, ça veut dire éveillé. C'est pas Dieu, c'est éveillé. Il est Bouddha parce que c'est un mot sanskrit qui veut dire « il est éveillé ». À quoi il s'est éveillé ? À la connaissance de la souffrance et de ses agissements et de son effacement aussi. La souffrance existe, on le sait tous, mais elle peut disparaître. Et si vous doutez, ne doutez pas, parce qu'elle peut disparaître. Et c'est plus facile qu'on le pense. Je voudrais vous donner des images. Je suis assise devant un lac. Il fait beau. L'eau est tranquille. Je suis bien. Maintenant, je suis bien. Est-ce que ça veut dire que la souffrance du monde a disparu? Est-ce que ça veut dire que toutes mes souffrances ou tous mes bobos, parce que quand souffrance est trop gros, mes embêtements, ok? Est-ce que ça veut dire que ça a disparu? Est-ce que ça veut dire que je ne vais plus aller au travail, que je ne vais plus être malade, que je ne vais pas vieillir, que quelqu'un ne va pas me dire quelque chose qui va me blesser, que je ne vais pas perdre mon argent, que je ne vais pas brûler mes œufs, n'importe quoi. Non, ça ne veut pas dire tout ça. Mais ça veut dire que maintenant, je suis bien. Maintenant, je ne suis pas en train de brûler les œufs. Et maintenant, je ne suis pas en train d'attendre à la banque. Et maintenant, je ne suis pas dans le trafic. Et maintenant... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trafic. Il y en aura. Je vais faire des bêtises, pour ne pas dire un autre mot qui commence par C. On va en faire. Et on en fait. Mais on en fait de moins en moins, quand on est pleinement conscient. On en fait vraiment de moins en moins. On est plus doux, plus gentil, plus attentionné. On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ne pas blesser les gens, on fait attention à ne pas se blesser soi-même, on fait attention à prendre soin de soi, toutes sortes de choses. Alors, une journée de pleine conscience, c'est quelques heures que nous venons passer ensemble pour s'aider, pour se donner des trucs, pour arrêter, pour apprendre comment vivre en pleine conscience. Et les trucs qu'on se donne, c'est les choses de base. Si on n'arrête pas, on ne peut pas être en pleine conscience. Alors, si vous partez juste avec ce mot, ça suffit. Okay? Arrêt. Parce que quand on dit « ici et maintenant », ça veut dire arrêt. Maintenant, c'est arrêt, now. Here. C'est là, maintenant. Maintenant, dans une de ces histoires, le Bouddha, il est Bouddha médecin. Il est médecin parce que Il sait comment guérir parce qu'il a vu d'où venait la souffrance et il a vu qu'on pouvait l'arrêter. C'est exactement comme un docteur. Vous allez chez le docteur, j'ai mal. Là, oui, ok. Quand vous faites ça, oui. Quand vous faites pas ça, oui, ok. Et c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il donne des médicaments ou bien pas de médicaments ou des trucs. Ok, vous devriez ne plus dormir à minuit tous les soirs, ne plus fumer, ne plus manger du gras, tout ça. Il nous donne des trucs. Et après, on sort du bureau, on quitte le médecin, et c'est à nous à le faire. Parce que le médecin, il n'est plus avec nous. Et si on lui téléphone parce qu'on a oublié ce qu'il nous a dit, il se peut fort que la secrétaire vous dise « Ah, il est déjà parti !» Ou bien « Rappelez demain !» ou des trucs. Alors, on est livré à nous-mêmes. Alors, on est tous ici, en journée, pour prendre soin de nous. Et bravo, bravo, je m'adresse à elle parce qu'elle est toute jeune, bravo d'être là. Peut-être que vous êtes aussi jeune, je ne connais pas votre âge, mais elle paraît vraiment jeune. Et je l'ai dit mardi. Mardi soir, nous donnons une formation gestion du stress et formation à la pleine conscience. Et quoi? Vous savez, la majorité, ce sont des étudiants de cégep et d'université. Et Diane et moi, quand on les a vus, on s'est dit, mais on dirait nos enfants. C'est vraiment... Pensez une seconde comment c'est merveilleux que des jeunes viennent pour apprendre à devenir conscient. Juste pensez ça. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça nous a tellement touchés, je veux dire, j'arrêtais pas de le dire, vraiment, évidemment, et tout l'enseignement n'a pas changé, mais mes mots ont changé. On dirait que je parlais à mes enfants. Je voulais pas leur faire peur, je voulais pas. Je les ai traités comme du beurre, du pain, là, du miel, je les ai vraiment. Tellement j'étais contente de voir qu'ils faisaient, ils passaient 2h30. Il y en a qui bâillaient, ils étaient fatigués, mais ils écoutaient. Alors ils étaient là de 7h à 9h30. Et on a fait tous les exercices, méditation assise, méditation marché, relaxation. Ils ont parlé, ils nous ont dit pourquoi ils sont là. C'est un événement de venir apprendre la pleine conscience. Alors, quand on veut pratiquer, d'abord il faut le vouloir. Il faut le décider. Et il faut s'engager. Okay, vous savez que chaque fois, on prend de bonnes résolutions et on les laisse tomber. Ça, c'est très courant. Mais si on est engagé envers soi-même, c'est personne ne va venir vous vérifier là. Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Parce que nous avons tous quelque chose de différent ou peut-être de commun, mais chacun personnellement va devoir le changer à sa façon. Selon sa vie, selon la maison où il habite, selon les parents qu'il a, les frères et sœurs qu'il a, les amis qu'il a, le travail qu'il a. C'est très personnel. Mais la recette, c'est ça. J'arrête. Je me calme. Je me repose pour guérir. J'arrête avec beaucoup de choses. Je peux arrêter avec mes pieds. Je peux arrêter de regarder. Je ferme les yeux. Je peux arrêter d'entendre. Je peux arrêter de parler. Je peux arrêter de bouger. Je peux arrêter de prendre et lâcher. Parce que dès que je fais ça, je vais saisir quelque chose. Et dès que je saisis quelque chose, j'en veux plus. Je m'attache. C'est l'attachement, la plus grosse souffrance. C'est l'attachement. Alors, j'arrête avec tout ça et je peux arrêter aussi avec une cloche. Une cloche comme ça ou une cloche comme ça. Comme on a ici, avec le bâton. Ou un téléphone. Pourquoi on dit toujours le téléphone? Ça peut être le iPhone qui sonne, des sonneries, n'importe quelle sonnerie. Hier, il y avait plein de voitures de pompiers qui sont passées, je ne sais pas, il y a tellement d'incendies en ce moment, des incendies malheureux, très malheureux. Et des fumées, ça fume partout. Toutes les choses qui vont attirer notre attention et qui peuvent nous faire revenir à maintenant. J'arrête. Si maintenant je fais tomber mon stylo, mon marqueur, vous allez faire... Eh bien, c'est un arrêt. Ça suffit pour s'arrêter. Et si vous avez des bébés, vous allez devoir vous arrêter très souvent. Ils pleurent, ils vous appellent, ou n'importe quoi. Ils vous arrêtent. Ah, on n'avait pas le temps, on n'avait pas de temps pour vous, vous êtes occupé avec le bébé. Ben, c'est ça ce qu'il faut faire. Quand on s'arrête, ça veut dire qu'on vient vers ce qui nous appelle, vers la chose du moment. Alors, au lieu que ce soit un bébé, ça peut être notre colère, ça peut être notre impatience, ça peut être notre angoisse, notre anxiété, notre tracas, nos examens, n'importe quoi. J'arrête et je regarde. Quand j'arrête, je respire. Et même quand je n'arrête pas, je respire. Mais je peux respirer et ne pas être arrêtée. Et alors, pour m'aider à m'arrêter, je reviens à ma respiration. On va prendre 3 respirations ensemble. Vous allez fermer les yeux, mettez-vous bien à l'aise et vous allez voir comment on peut respirer en profondeur. Quand vous allez respirer, vous allez aspirer l'air et vous allez l'envoyer au fin fond de votre ventre. Et sentir le ventre gonflé et la poitrine gonflée. Et sentir le dos qui se tend, en fait, on sent l'air partout. Et on va expirer. Les épaules se détendent, le ventre se détend, se relâche, la poitrine. Et il y a quelque chose qui quitte notre corps. Et ce qui quitte notre corps, c'est le tracas. C'est l'angoisse. C'est ce qui gonfle notre poitrine et qui nous inquiète. Parce que quand j'ai une angoisse, mon estomac se noue, plexus solaire se serre, l'estomac, tout se serre. Là, j'inspire, j'expire. On va le faire 3 fois avec 3 sons de cloche. Quand on entend la cloche, c'est comme si on entendait l'air qui entre en nous. Et on suit les ondes de la cloche et on suit la respiration. Et quand on est à côté, on sent la vibration et ça nous fait du bien automatiquement. C'est merveilleux. Alors cet arrêt-là, c'est possible à tout moment de la journée. Vous êtes libre de le faire. Vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir de le faire. On ne peut pas vous empêcher de respirer. Alors, au lieu d'attendre, et si vous attendez l'autobus, et si vous attendez à la banque, et si vous attendez dans la salle d'attente, chez un médecin, ou si vous êtes dans n'importe où, vous pouvez vous arrêter tout en continuant à marcher et prendre votre respiration et la ramener à vous. Et vous allez voir comment vous allez vous calmer tout de suite, comment on se calme. On peut s'arrêter en marchant. Quand on fait la marche méditative, ou quand on marche, si je vais aller prendre un biscuit, au lieu d'y aller comme ça, je peux y aller comme ça. Ou même comme ça. Et on sent tout de suite qu'il y a un arrêt. Comme, je sais pas, il y a quelque chose qui est contrôlé. C'est, je marche en pleine conscience. Et j'en profite. Alors, n'importe où, à l'école, à la gym, n'importe où, on peut marcher en pleine. On peut faire notre gym en pleine conscience. On peut faire tout de façon à ce que ça nous apporte du plaisir. Et si ça ne nous apporte pas du plaisir, bah on reconnaît, j'ai pas envie de faire ça. Mais on revient à la respiration et ça, ça nous supporte, ça nous aide à accepter ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que la vie n'est pas que de choses qu'on a envie de faire. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire aussi. Mais chaque fois qu'on revient au moment présent, c'est comme si on balayait. Vous savez, vous avez déjà fait l'expérience d'envoyer une goutte d'huile dans l'eau ou du savon. C'est comme de l'huile dans le... Il y a la mousse. Oh non, j'ai une meilleure idée. Vous avez été au restaurant et le monsieur, le serveur vient, il vous verse de l'huile et il verse du vinaigre balsamique, je ne sais pas quoi. Et puis il commence à jouer et puis toutes les gouttes se séparent et tout ça. Et ça c'est très joli. Alors imaginez que chaque goutte d'huile ou de vinaigre balsamique est un arrêt, est un instant présent. Tout posé comme ça. Ou alors des soupes avec de la betterave, jus de betterave. C'est drôle comme la betterave, elle reste toute seule, elle s'isole du reste. Ça, c'est l'instant présent. C'est comme si on rentre dans un refuge, on rentre dans un endroit qui est totalement protégé, complètement protégé. Ça, c'est ma respiration. Et ça, c'est ma pratique où je reviens en moi-même et je prends refuge. Alors, surtout, l'arrêt, c'est de prendre refuge. Bon, je n'ai pas de place. Prendre refuge. Juste quand je dis prendre refuge, je pense à un abri. Je pense à un endroit où je suis bien. Et ça, c'est l'arrêt. Arrêter partout. Et quand on arrête, on est calmé. Alors, le Bouddha, quand il s'est mis en méditation pour atteindre la compréhension parfaite que nous avons lue tout à l'heure, ça ne lui est pas venu comme ça. Il n'était pas content de sa condition de prince et de vivre au palais, tout ça. Il ne voulait pas devenir roi, mais il voulait savoir pourquoi il y avait la souffrance. Et il a été voir des maîtres qui ne l'ont pas satisfait. Et il s'est dit, et il a essayé l'ascétisme, il dit je ne veux plus manger, je ne veux pas me couper les cheveux, je ne veux pas me laver, il est devenu maigre comme un clou, au point de défaillir. Et il s'est dit, si je vais subir ça à mon corps, si mon corps ne peut plus me tenir, c'est pas comme ça que je vais comprendre. Parce que quand le corps n'est pas bien, l'esprit ne peut plus réagir avec lucidité, il divague, on a des vertiges, alors ça va ensemble. Alors il s'est dit, faut pas que je pratique l'ascétisme, il vaut mieux que je reste lucide et que je sois en bonne santé. Alors vous voyez toutes ces notions-là de se priver de quelque chose, c'est pas la bonne réponse. Au contraire, il faut être bien. Alors il s'est dit, bon, ben, je vais m'asseoir jusqu'à ce que je vois ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est... Qu'est-ce qu'on fait quand on est assis? Quand vous êtes assis et vous faites rien du tout, comme... Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Ça part. Oui, effectivement. Où? On observe. Quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Ce qu'il y a autour, si vous avez les yeux ouverts. Et si vous avez les yeux fermés? Quand on a les yeux ouverts, on peut très facilement se laisser distraire. C'est bien aussi. Quand on marche dans la rue, il faut ouvrir les yeux. Sinon, on va se casser la figure. On va avoir une petite inondation ici. Mais c'est joli quand même. Ça veut dire qu'elle marche bien. Elle respire. Et quand on a les yeux fermés, on a un regard intérieur. Alors, si on ne le fait pas avec pleine conscience, on va laisser l'esprit nous guider. Et lui, il va nous dicter des choses. Il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu n'aurais pas dû faire ça? Ah, j'aurais dû, je devrais. C'est toujours toujours des conditionnels. J'aurais dû, je devrais. Toujours, il nous impose quelque chose. Et la différence avec quelqu'un qui est pleinement conscient, c'est qu'il regarde l'esprit et il lui dit, ok, tu veux faire ça, mais moi je ne vais pas me laisser faire. Et je vais revenir à quelque chose qui est solide en moi. En fait, c'est comme si je m'agrippe à une aide pour ne pas me laisser balloter et emporter. On donne toujours l'image du radeau qui il se laisse emporter ou dans les vagues. On a lu la semaine dernière dans Paris Match, en France, à Biarritz, il y a un endroit, vraiment ça tombe très bien, où les gens aiment, il y a beaucoup de vagues, et c'est pas un port, mais c'est comme une jetée, et les vagues sont très hautes, et des gens, un couple qui était imprudent, a été jusqu'en bas. Alors, sur les gros rochers, des vagues immenses sont venues et les ont emportées. Alors, on voit dans le Paris Match le monsieur qui essaye, qui agrippe la dame. Il y a plusieurs images. Il réussit à l'attraper, mais après non, les vagues sont trop fortes et elle s'en va, elle est perdue. Il n'avait pas de sur quoi s'accrocher. Il y avait pas, ils sont partis. Lui, il était vivant, mais elle. Alors, bien sûr, c'est un drame, comme il y en a plein de drames. La dame qui est morte sur son balcon, la vieille dame à l'île verte, quelle horreur. Son fils n'avait même pas une grande échelle pour la secourir. Elle attendait sur le balcon et c'est une horreur. Je veux dire, ça fait tellement mal. Alors, on n'a pas... Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Se jeter? C'était trop haut. Alors, ce que ma main fait de s'agripper, quand on va dans la mer avec nos petits-enfants, attrape-moi, hein, ne me lâche pas. Non, non, je te lâche, je te jure, je te lâche pas, je t'assure. Tu attrapes l'enfant, il se tient à vous, et il a confiance en vous. Parce que si vous lâchez, là, il ne va plus vous faire confiance. Mais quand on est tout seul dans la vie, à qui on s'agrippe? Qu'est-ce qu'on attrape? Alors, on peut attraper soi-même, mais comment? Sa respiration. Ce petit endroit qui va nous permettre de revenir là. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Parce que on ne peut pas imaginer l'esprit et on ne peut pas imaginer la respiration non plus, parce que l'esprit et la respiration, on ne peut pas penser le cerveau, et l'esprit, et le nez qui respire. Le cerveau, chaque fois qu'on pense quelque chose, il y a de nouveaux sillons qui se forment. Chaque fois. Chaque fois. Alors, lui, il peut nous emporter partout. Avant, après. La respiration, elle rentre, elle sort. Elle rentre, elle sort. Elle est toujours fidèle, toujours là. Quand elle s'arrêtera, on sera mort. C'est elle qui nous calme. C'est elle qui nous oxygène. C'est elle qui oxygène notre esprit aussi. Parce que quand on ne peut plus respirer, l'esprit, le cerveau, ça y est, il est foutu. Okay? Alors, on s'accroche à elle. Et c'est elle, comme elle est toujours présente et régulière, alors on lui fait confiance et on la considère comme une ancre. On s'ancre à sa respiration. On s'agrippe à elle et on ne perd pas pied. Parce que si on en rate une, on peut en avoir une autre et encore une autre et encore une autre. Et chaque fois, il va y avoir une respiration qui va venir. Alors la seule chose qu'on a à faire, c'est de revenir à cette respiration. Pourquoi faire? Pour se calmer. J'ai couru, je respire. Je fais du jogging, je m'arrête. Ah, j'ai un point de côté. Et je fais ça. Donc ça veut dire que j'utilise encore la respiration. Quelqu'un me met en colère, je respire. J'ai peur, je respire. N'importe quoi me fait respirer. Tout passe par la respiration. C'est la respiration qui va m'ancrer. Et c'est la respiration qui va me calmer. Maintenant, quand je me calme, je vois plus clair. Je vois plus clair, je vois mieux et j'observe. Quand j'ai les yeux fermés et je vais faire le regard profond. Alors la méditation, il y a deux mots en sanskrit. Samatha, c'est s'arrêter. Et vipassana, c'est regarder profondément pour guérir. Qu'est-ce que je veux regarder profondément? Qu'est-ce qu'on veut regarder profondément? On peut regarder notre corps. La douleur qui a, ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal à la tête. On peut regarder ça. On peut se dire, comment ça se fait que j'ai mal au dos? Ok, je me tiens mal, ok, j'ai exagéré. Tout, on peut être notre propre médecin, ok? On peut trouver d'autres réponses sur Google si vous voulez, mais on peut le faire soi-même. Regardez l'esprit et les émotions, c'est plus compliqué. Mais c'est possible. Alors c'est très possible. J'ai un rendez-vous, mon ami me laisse tomber, j'ai un examen, j'ai peur, j'ai une entrevue, je redoute. Tout ça, ça me crée des anxiétés. Alors j'arrête et je prends le temps de regarder. Et vraiment, c'est pas sorcier. Juste, pourquoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Et je visualise le monsieur qui me fait peur, ou la bonne dame qui me fait peur. C'est quoi? C'est un policier, c'est un truc. Quand mon fils était à l'université, il faisait droit, et il avait un recteur à l'université de Montréal. Excusez-moi. Peau de vache. Oh. Moi, je ne le connaissais pas, mais de la façon dont il me le décrit, c'était vraiment une de ces personnes qui, je ne sais pas moi, sans raison, sévère, enfin vraiment. Il avait un rendez-vous avec lui et je lui ai dit, David, ce monsieur dans son bureau, c'est seulement un monsieur, c'est un être humain, c'est une personne. Je lui ai dit, lui aussi il se lève le matin, lui aussi il va aux toilettes, lui aussi il mange. Lui aussi se repose. Lui aussi va marcher dans sa voiture. Tout, je l'ai ramené à la réalité parce qu'il le voyait comme quelqu'un. Et je lui disais, c'est un monsieur qui a des émotions aussi. C'est un monsieur. Alors, et toi aussi, tu es une personne. Alors, n'aie pas peur de quelqu'un qui a tant de pouvoir. C'était juste pour rééquilibrer. Lui, tout jeune, et l'autre monsieur qui le terrorisait. Alors, regarder profondément, c'est remettre les choses en place. C'est voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, j'ai pris comme exemple un recteur, mais ça peut être un policier aussi, quand il nous arrête, hein, et on a le cœur qui se dit, oh, zut, qu'est-ce que j'ai fait, tout. Mais, ce sont des personnes comme nous, je veux dire. C'est comme, moi aussi j'existe. Moi aussi, je fais quelque chose. Oui. Alors, revenir à nous-mêmes, revenir à notre solidité, revenir à notre souveraineté. Souveraineté. Prendre les forces que j'ai, moi, avec mon calme et ma respiration et mon pouvoir de m'arrêter. Je peux aller m'enfermer 2 minutes aux toilettes et puis retrouver mon calme. C'est pas sorcier. Ou je peux me fermer à la cuisine et puis... Et dès que je fais ça, je suis déjà calmée. Alors, ça c'est comme le regard profond. Regardez l'émotion. Et alors vous pouvez les nommer toutes. Toutes. Chacun selon ce qu'il ressent. Si je ressens de la colère, c'est à vous. C'est à vous. Si... Vous allez passer 20 ans chez le psychanalyste et que ça ne vous sert à rien, vous laissez tomber et vous revenez à l'instant présent et vous vivez ce qu'il y a maintenant là. Maintenant, si vous avez une relation qui n'est pas bonne ou n'importe, et vous voulez aller la comprendre, ben, vous ne pouvez pas dire, ok, vous vous engueulez avec votre mari, ok? Et puis, vous pouvez pas dire, ben, j'ai pas envie de gratter, ben, tant pis, je continue à vivre. Et puis, ça s'envenime et ça s'envenime, et c'est froid et c'est pas bien. Alors, il y a des choses qu'il faut régler et d'autres qu'il faut pas régler. Regarder profondément, c'est de voir comment moi je réagis, comment lui il réagit, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est possible de le faire, c'est possible de regarder. On peut prendre le temps aussi de voir d'où on vient, quelle est notre hérédité, comment est notre famille, qu'est-ce qui prédomine chez notre famille, est-ce que c'est une famille colérique, ou est-ce qu'il y a tendance de dépression dans cette famille, est-ce que... Et une fois que ça aide énormément déjà de savoir que mes parents étaient comme ça, ou mes grands-parents étaient comme ça, et puis ça nous aide à... Ok, moi, à partir de maintenant, je me prends en main. Et c'est pas parce que papa était colérique que je vais être colérique. C'est pas parce que papa fumait que moi je vais fumer. C'est pas parce que ou maman faisait ça et que. Alors donc, il y a un arrêt quelque part que je peux faire. Et j'ai la capacité de le faire. Je peux m'arrêter. Et arrêter, donc vous voyez que ça c'est les pieds qui s'arrêtent, mais ça va tellement loin. Je peux arrêter quoi? Les habitudes, les énergies d'habitude, l'alimentation, pas seulement comestible, mais l'alimentation de ce que je vois par mes yeux, de ce que je me nourris. Je vais au cinéma, j'adore voir les films de terreur. Mais arrête de voir des films de terreur. Je veux voir des films de violence. Mais arrête de voir des films de violence. Je fume ça. Mais ben, essaye d'arrêter. Ou bien, si tu ne peux pas arrêter, c'est trop tard. Commence pas. Comment tu commences? Ben, avec la prise de conscience. Alors, on peut prévenir. Et si on est déjà dedans, regardez où ça a commencé. Alors, c'est tout un cheminement personnel. C'est tout un travail que l'on fait sur soi. Maintenant, il y a une autre chose. Vous savez que le bouddhisme, c'est la voie du juste milieu. Ni trop, ni trop peu. Ne partez pas avec l'idée qu'il faut il faut faire juste ça. C'est pas vrai, parce que si c'est ça peut être bon pour vous, mais ça peut ne pas être bon pour l'autre. Ok? Il y a des personnes qui s'assoient pendant 10 jours et qui font le vipassana. Juste, ils s'assoient pendant 10 jours. Ils s'assoient. Ou bien ils en tirent profit, ou bien ça leur fait rien du tout. Et d'autres qui préfèrent faire le vipassana en vivant. Quand j'arrose les plantes, regardez la plante. Il y a le soleil à travers, je peux voir. Et quand je regarde, je vois là qu'il y a du soleil, je vois qu'il fait beau dehors, je vois tout ça, je le vois dans la plante. Alors vipassana, c'est juste en regardant une plante. C'est en regardant son enfant, c'est en regardant ce que je fais à manger. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Si vous voulez passer 10 jours assis et à regarder, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez passer une vie entière arrêtée à le faire. Alors, c'est cette notion de méditation assise, bloquée. C'est pas ça du tout. C'est la méditation à tout moment de la journée. Dans la douche, dans le bain, en faisant la lessive, en repassant, n'importe quoi. En allant à l'école, en faisant ses devoirs, tout ce que vous faites, vous pouvez le faire en pleine conscience. Aidé par votre pleine conscience. Et quand on fait cet arrêt, alors vous comprenez que le mot c'est plus que arrêt, et c'est plus que calme, c'est un grand arrêt, c'est un grand calme. Okay? Et le repos, c'est pas seulement de dormir, c'est pas seulement de relaxer, sur un hamac, et c'est pas ça, c'est le repos mental. Imaginez que chaque fois que vous vous arrêtez, vous êtes reposé. Vous êtes fatigué maintenant? Vous êtes fatigué maintenant? Non. Moi, je suis debout et je ne suis pas fatiguée. et je peux passer des journées ici. J'arrive vers 4 heures, oh, je suis crevée. Et quand j'arrive à la maison, je me dis, je vais aller dormir, je vais prendre un bain. Et quand j'arrive à la maison, je ne suis pas fatiguée. Je continue, je fais d'autres choses, je fais mes choses. C'est très drôle. Pourquoi ? Parce que je pratique l'arrêt. Parce que quand je suis dans la voiture, je ne suis pas en train de ruminer. C'est une pratique. Je me vois faire. C'est une pratique. Et je ne suis pas en train de me dire, oh, demain je dois faire ça, et lundi je dois faire ça. Et j'en ai pour tous les jours. Mais je n'y pense pas. Je ne suis pas dans lundi. Je ne suis pas dans dimanche soir. Je suis maintenant juste ici. Et il faut que vous vous donniez une image que quand on est juste ici, c'est le repos. Quand on va à New York, par exemple, il y a des... Ou je ne sais pas moi, n'importe où, à Drummondville, il y a des arrêts, des... Rest area, comment on dit en français ? Des haltes routières. Ok ? Il y a des... Mais combien, tous les... Je ne sais pas combien, 30 kilomètres ou... Ça. Imaginez que vous ayez des haltes routières à chaque respiration. À chaque respiration, à chaque moment, à chaque instant. On l'a dit cette semaine, je ne sais pas qui me l'a demandé, un instant, ce n'est pas un écart entre une heure et une autre heure. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout petit, un instant. C'est juste, on va le faire, un instant. Respirez. Un instant. Encore une autre. C'est un autre instant. Alors vous vous rendez compte combien d'instants on a dans une journée? C'est ça l'instant. Et à cet instant-là, vous n'avez pas pensé à vos soucis. Vous n'avez pas pensé à demain. Vous n'avez pas pensé à tout ce qui vous attend. C'est ça, c'est notre pouvoir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est souverain. On est souverain sur ce que je veux faire et ce que je peux faire maintenant. Je n'anticipe pas. Et si jamais ça vient à mon esprit, ok, je le laisse. Mais je reviens. Et je reviens. Alors, hier, on a eu une longue journée. Et quand je suis rentrée à la maison, oui, j'étais fatiguée. Mais quand j'ai marché sur la neige, il faisait froid. J'ai vu... Et après, j'ai regardé mon pied et j'ai commencé à marcher, doucement. Et il y avait de la neige sur ma voiture et je me suis vue. J'avais faim. J'ai pris la brosse. J'ai commencé. Et je ne l'ai pas fait vite. Et j'étais consciente. Je me voyais faire. Je me disais, tu viens de dire que tu es crevée. Ben non. Je suis amusée. J'ai enlevé la neige. Et dans la voiture, rentre à Descari, je sentais ma fatigue. J'étais assise. Je sentais quelque chose s'est déposé. Et, ok. Pour vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple. Très fort. Mais je vais respirer parce que je sens l'émotion. Maman, elle vient de décéder. Et elle est enterrée au cimetière de la Savane. Vous connaissez la rue de la Savane? Oui ou non? C'est juste là. Non. C'est pas Mont-Roy, c'est pas le Côte des Neiges. Non. C'est pourquoi j'insiste, excusez-moi, parce que je passe toujours par là. Et comment on passe par là? Ok, vous connaissez la boule orange? La boule orange de Descari? Oui? Bon, eh bien, le trottoir d'en face, ce quartier-là, okay, juste si vous allez si vous rentrez un tout petit peu, c'est ça, c'est la rue de la Savane, et il y a un grand cimetière là. Ok? Alors, c'est si vous prenez la rue Victoria, hein? Côte des Neiges. De notre côté, de ce côté-là, ici. Ok, ça c'est Van Horn. Si on va un peu plus à l'ouest là-bas, déclarée ville Mont-Royal, mais même pas ville Mont-Royal, plus vers Descaries. Alors c'est entre ville Mont-Royal et Descaries. Bon, pourquoi je vous dis ça? Bon, parce qu'elle est tout près de moi, elle n'est pas loin. Et chaque fois que je monte, je descends à Descaries, alors je fais un petit détour et je ne rentre pas au cimetière, mais je vois la porte et je vois, ça fait 15 jours, ok? Et je dis, tu es là, maman, ok? Et puis, ça monte, ok? Plein de choses qui montent. Ben, je fais comme ça. Ok. Et je regarde mon volant et je m'arrête au feu rouge et je sais qu'elle est tout là, mais mon choix c'est de la suivre. Je pourrais très bien laisser mon esprit m'emmener et je vois, je revis des tas de choses, l'esprit est fou. Je me ramène parce que je suis seulement dans la voiture. Et je suis consciente de ce que ça me fait. Et je peux décider, est-ce que je veux le vivre ou pas? Ça, c'est ma souveraineté. Est-ce que je veux rentrer dans cette émotion? Je peux le faire. Je peux m'arrêter et dire, ok, je vais vivre avec toi, moi. Je vais te revivre, je vais te... Ok? Je me réserve des temps pour ça. On a des temps réservés. Ok? Je ne veux pas dire que je ne vais pas le faire. Mais pendant que je suis dans la voiture et que je conduis, ce n'est pas le moment que je me mette à pleurer là tout le temps. Ce n'est pas le moment. Alors, je me dis, quand je voudrais pleurer, je vais pleurer. Mais maintenant, je vais conduire. Et c'est tout. Je ramène juste quelque chose. Mon esprit, alors, pour m'aider, je regarde le volant, je regarde le feu rouge, je lis les signes. Juste les signes. Autoroute des Caries, métropolitaine. Alors, juste, je m'amuse. Dorval. Non, Trudeau, aéroport. Je lis. Et vous connaissez le truc de je me souviens. La plaque minéralogique des voitures, ils sont devant vous. Les plaques. C'est écrit je me souviens. Oui. Vous avez remarqué au moins. Thich Nhat Hanh nous l'a fait remarquer. Et depuis qu'il nous l'a fait remarquer, on ne l'oublie pas. Chaque fois qu'on est devant une voiture, je me souviens. Et quand on est dans le trafic et qu'on est collé, qu'est-ce qu'on regarde? La plaque. Je me souviens. Je me souviens de quoi? De revenir à la paix. Je me souviens de ne pas me laisser emporter par l'émotion qui est là. Sans la nier. Sans la fuir et sans la nuire. Quand je serai à la maison assise dans ma tranquillité, je prendrai mon émotion et je m'occuperai d'elle. Et je commencerai à la regarder et à la gratter si je veux. Mais je ne vais pas me mettre à la gratter quand je suis dans le volant de la voiture. Une chose à la fois. Et chaque moment où on est assis, on a une tendance à vouloir gratter. Mais non, quand je repasse des chemises, ce n'est pas le moment de gratter. Quand je fais une soupe ou des spaghettis, c'est pas le moment de gratter. Maintenant, je fais des spaghettis. Et quand je lave la vaisselle, si je n'ai pas un lave-vaisselle, je lave la vaisselle. C'est possible. On l'a fait. On le fait tous. On le pratique. Et à force de le pratiquer, on réussit à devenir souverain sur notre vie. On réussit. Nos amis, nos collègues, n'importe qui ne peut pas avoir de souveraineté sur nous. On est ensemble. Ok? Mais c'est pas un face à l'autre qui t'agresse. Non. Vous connaissez Facebook? C'est très facile de laisser emporter par Facebook. Ok? Moi, tous mes enfants, quand je dis tous mes enfants, j'ai deux enfants, mais mes cousins, mes nièces, mes neveux, on est une grande famille, ils sont tous jeunes comme vous. Tout ça. Ah, Facebook, ils se mettent des photos, des trucs. Ok, moi, je n'écris pas dans Facebook. Mais je ne veux pas le fermer parce que je veux voir les photos de mes enfants et de mes petits-enfants. Je veux les voir, je veux être témoin de leur vie. Et on commence à regarder. Et puis, oh non, des tas tas de choses qui arrivent. On peut se laisser emporter par ça. On peut avoir tendance à répondre. Quelqu'un a dit ça, pouf, on lui répond quelque chose. On lui répond quelque chose. Et c'est fini, on est perdu et on se laisse emporter. Et on n'a plus sa souveraineté. Alors il faut faire très attention de rester souverain, même avec un outil comme Facebook, qui nous emporte facilement. D'accord ? Maintenant, on fait tout ça pour guérir, pour se soigner. Je vais chez le docteur qui me donne un médicament, ou je vais à la maison de pleine conscience qui ne me donne pas un médicament, qui me donne un truc, un autre outil qui n'est pas un médicament, qui est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai cette médecine en moi, que le Bouddha qui s'appelle le roi médecin, il a dit, on est tous capables de s'éveiller. Et on est tous capables d'être des médecins pour soi-même. Alors, on fait ce qu'on peut, attention, ce qu'on peut. Quand on n'est pas capable, on va consulter. Mais en attendant, on a des pieds, on a des mains, on a des yeux, on a des oreilles, on a ce qu'il faut, on a une respiration, on a tout ce qu'il faut pour commencer à prendre soin de soi, là, tout de suite. Même si c'est tout petit, on a des limites, mais on a quand même un grand pouvoir. Alors, on donne l'exemple aussi de ce prisonnier qui est dans une cellule, toute petite cellule, et qui a sa respiration, qui a ses yeux, ses oreilles, ses mains, pour pouvoir prendre soin de lui et de ne pas se laisser dominer, ravager par l'angoisse, par l'anxiété, par la dépression. Et il est seulement entre quatre murs et qui a la paix parce qu'il est libre. Et Thich Nhat Hanh, Thaï, a écrit un livre. Soyez libre là où vous êtes. On peut être libre là où on est. Il faut imaginer un peu. Libre dans la voiture, libre dans le trafic, libre chez le médecin, libre n'importe où. On est libre parce qu'on est en possession de nos moyens. Alors c'est déjà pas mal, aujourd'hui, une journée de pleine conscience, de partir avec la liberté dans nos poches. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on commence à guérir les choses une par une. Pas tout en même temps, une par une. Une chose à la fois. Et aussi, une émotion à la fois. Et quand je dis émotion, c'est tout plein de choses. Pourquoi je parle de l'anxiété ? Parce que tout le monde parle de l'anxiété. Parce que les gens viennent ici pour guérir et soigner leur anxiété et leur dépression. Et etc. Quand on est déprimé, c'est parce qu'on est en bas. C'est parce qu'on est un endroit où on ne voit pas la lumière et on reste dedans et on la nourrit et on l'entretient. Et on baisse nos yeux, on baisse nos épaules, on reste dans la dépression. Mais je peux la regarder en ouvrant les yeux et en la regardant, en la nommant et en se disant pourquoi ? Depuis quand ? Où ça commence ? Qu'est-ce que je fais pour ou contre ? Est-ce que je l'alimente ? Le Bouddha a dit que tout est biologique, tout est organique. Ça veut dire que rien ne survit sans nourriture. Et nourriture, ce n'est pas seulement comestible. J'alimente, ok, je suis déprimée, je vais mettre un disque langoureux, une chanson triste, ça, j'adore, et je reste là-dedans, je baisse les lumières, j'allume une bougie. Je suis en train de construire ma dépression. Et c'est comme ça, ma maison, elle est toute comme ça. C'est juste pour ma dépression. Ou anxiété. Ou alors je suis colérique et je vais aller mettre de la musique rock, métal, n'importe quoi. Et je vais voir des films, je vais chercher des choses. Et la pleine conscience, c'est de le faire sans le savoir. Spontanément, je vais chercher des choses qui me nourrissent, qui me rappellent ce que je suis, ce que j'aime. Je ne vais pas changer mes habitudes et je reste là-dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vous avez franchi cette porte. Nous, nous la franchissons plusieurs fois par semaine. Et chaque fois que nous venons vers autre chose. Nous venons vers un éveil. Nous venons vers quelque chose qui a cassé nos habitudes, qui va nous nourrir de la bonne façon, qui va nous reposer et nous guérir. Quand nous sommes arrivés au début, nous avions tous des questions, des millions de questions. Comment est-ce que je fais pour respirer? Comment est-ce que je fais pour méditer? Comment est-ce que je fais? Et ça, comment, les gens veulent savoir tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux enseigner la méditation et comment je fais? Je la pratique. Vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que vous ne pratiquez pas. J'enseignais en deuxième année des enfants de 7 ans et le programme du ministère a commencé à mettre les échecs au programme. Il fallait enseigner les échecs. Je ne savais pas jouer aux échecs. Et quand on était dans la salle des profs, tout le monde disait « Oh, les échecs, mais moi je ne sais pas jouer aux échecs. » Mais moi, non, je n'ai jamais joué aux échecs. Ça a commencé à me donner des angoisses. Et d'autres profs aussi, parce que c'est pas tout le monde qui sait jouer aux échecs. Et apparemment, il faut être très brillant pour jouer aux échecs. Et moi, je n'étais pas très brillante pour jouer aux échecs. Et bien, vous savez quoi? On nous a donné tout un tube avec les pièces des échecs, avec des choses, un tableau magnétique. Les pièces étaient magnétiques, tout ça. Et bien, le jour où j'ai dit aux enfants, vous savez quoi? On va apprendre à jouer aux échecs, tous les enfants. Yeah! J'ai dit, ah, vous savez jouer aux échecs? Yeah, oui, 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 oui. Yeah. Ah, je dis, ben écoute, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas jouer aux échecs. Je dis, oh, on va apprendre ensemble, on va en mode. Alors, il a fallu que je montre que je sois le prof. Je suis le prof. Je commençais à mettre les pièces. Je ne savais même pas les mettre, mais j'avais le livre à côté. Placer les pièces là, comme ça. Les enfants, alors, non, 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 le roi, il est là, non, la tour. Là. Je dis, ok, tu viens me montrer. Viens, viens, hop. Il est venu, il a commencé à me mettre et ils voulaient tous participer. Je les ai laissés tous participer, chacun leur tour, tout en dirigeant. Et vous savez quoi? Pendant l'année, j'ai appris à jouer aux échecs. C'est eux qui m'ont appris à jouer aux échecs. Et je ne cachais pas mon ignorance. Je disais, je ne sais pas jouer aux échecs. Vous allez m'apprendre. Et vous savez comment ils sont bons, les enfants. Ils vous apprennent à manipuler ma petite nièce. Et ma petite fille, qui a 1 an et demi, qu'elle prend le iPhone, et elle l'allume, avec son petit doigt, elle fait comme ça. Elle glisse le truc et elle va chercher l'application qu'elle aime et elle commence et dès qu'il y a la musique, elle veut changer. Et... Frisinette, frisinette, frisinette. Alors, 1 an et demi. Et nous, quand quelque chose ne va pas, David, tu viens m'aider? Je comprends pas. Comment on fait ça? Non, non. Maman, appuie. C'est ça. C'est se guérir. Une chose à la fois. Vraiment une chose à la fois. Mais pour l'instant, il n'y a ni iPhone, ni bobo, ni douleur. Maintenant, c'est rien. Alors chaque fois, maintenant, il n'y a rien. C'est tout. C'est bien l'heure.